France Culture.
18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les militaires déployés à Los Angeles. Après 2 jours de manifestations et de heurts face aux arrestations massives d'immigrés, en majorité latino-américains, la Maison-Blanche parle d'anarchie et envoie la garde nationale. Les autorités locales dénoncent une décision incendiaire de la part de l'administration de Donald Trump. Le navire humanitaire Madeleine et ses 12 militants à bord déterminés à poursuivre leur route vers Gaza malgré les menaces israéliennes. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, ayant ordonné à l'armée d'intervenir pour empêcher le navire d'atteindre l'enclave palestinienne. Eux sont attendus dans la baie des Anges. Une 60aine de chefs d'État et de gouvernement au rendez-vous à Nice ce soir, à la veille de la conférence de l'ONU sur les océans. Emmanuel Macron les appelle à la mobilisation après avoir réprimandé son propre gouvernement, accusé de ne pas maintenir le cap écologique. 2 jours après le début de manifestations contre les expulsions massives d'immigrés en Californie, Donald Trump ordonne l'envoi de la garde nationale. Les manifestants se mobilisent depuis vendredi contre les arrestations menées par les officiers fédéraux de l'immigration, donnant lieu à plusieurs affrontements à Los Angeles et dans sa banlieue. Une anarchie, dénonce la Maison-Blanche, qui a donc décidé de déployer 2000 militaires. Pierrick Laurent.
La garde nationale est donc entrée à l'aube dans les rues de Los Angeles, mobilisée par Donald Trump lui-même contre l'avis du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui estime que les forces locales sont suffisantes pour répondre aux heurts de ces derniers jours. Tout a commencé vendredi lorsque des forces fédérales, lourdement armées, mènent une série de raids à Los Angeles, dans leur viseur des commerces où travaillent souvent des migrants en situation irrégulière. Mais la police de l'immigration est rapidement repérée puis encerclée par les habitants qui tentent alors d'empêcher l'arrestation d'une 40aine de personnes. Samedi, même scénario, des voitures des forces fédérales regroupées près d'un magasin de bricolage sont prises à partie par quelques dizaines d'activistes qui lancent des pierres et des feux d'artifice. S'ensuit un face-à-face tendu entre manifestants et forces de l'ordre qui durera jusque tard dans la nuit. Les images sont impressionnantes, mais les émeutes circonscrites à quelques rues. Pourtant, à Washington, la Maison-Blanche n'hésite pas à parler d'anarchie, d'insurrection, des mots volontairement forts pour justifier donc la prise de contrôle de la garde nationale californienne. Une décision exceptionnelle pour un président américain et dont la base juridique est d'ailleurs floue selon les spécialistes. La Californie, principal État qui s'oppose à la politique de Donald Trump, entre dans un bras de fer dont l'issue est pour le moins incertaine.
Pierrick Laurent, correspondant de France Culture à Los Angeles, où la dernière intervention de la garde nationale pour des troubles civils remonte à 2020, à la suite des émeutes provoquées par la mort de George Floyd. Le gouvernement israélien ordonne à l'armée d'empêcher l'arrivée du navire humanitaire Madeleine à Gaza, à bord de ce voilier de la coalition de la flottille pour la liberté. Une 12aine de militants, dont l'activiste écologiste Greta Thunberg ou encore l'eurodéputée française Rima Hassan, déterminée donc à apporter de l'aide humanitaire et à briser le blocus israélien imposé au territoire palestinien. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, Israël ne permettra à personne de briser le blocus maritime de Gaza, prévient ce soir le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
Oui, toujours au large de l'Égypte, le Madeleine s'approche des côtes de Gaza et le ton monte côté israélien. Sur son compte Telegram, le ministre de la Défense, Israël Katz, indique qu'il a ordonné à l'armée d'empêcher l'arrivée du navire humanitaire. Il s'adresse directement à l'écologiste suédoise Greta Thunberg, qu'il qualifie au passage d'antisémite, et à ses compagnons. « Faites demi-tour, car vous n'arriverez pas à Gaza. Israël ne permettra à personne de forcer le blocus de Gaza », dit encore Israël Katz, « que ce soit par mer, air ou bien par voie terrestre. Le but du blocus pour le ministre est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas. Nous sommes 12 civils, pas armés », proclame de son côté l'eurodéputée Rima Hassan. « Nous resterons mobilisés jusqu'au bout », ajoute-t-elle, « jusqu'à ce qu'Israël coupe Internet et les réseaux ». D'après son équipage, le bateau a subi aujourd'hui un brouillage de son système de géolocation, mais le scénario le plus probable est que le voilier qui transporte une cargaison humanitaire symbolique soit remorqué jusqu'au port d'Ashdod, au nord de l'enclave palestinienne, et que ses passagers soient ensuite placés dans le premier avion à destination de l'Europe.
Michel Paul en direct de Jérusalem pour France Culture. Tandis que dans la bande de Gaza, au moins 10 personnes ont été tuées dans des opérations militaires israéliennes menées depuis l'aube. 5 d'entre elles en allant chercher de l'aide humanitaire, affirme ce soir la défense civile de Gaza. L'armée russe continue de progresser en Ukraine et affirme s'attaquer à la région de Dnipropetrovsk, bordant celle de Donetsk. Cette avancée non confirmée par le haut commandement militaire ukrainien marquerait un revers pour l'armée ukrainienne. L'annonce de cette opération intervient alors que Kiev et Moscou se sont accusés mutuellement de perturber un échange de prisonniers et de soldats tués prévu ce week-end. Échange qui devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine, annonce l'Ukraine. Un candidat à la présidentielle blessé par balle en plein meeting. Cela s'est passé hier soir à Bogota, en Colombie. Le sénateur conservateur Miguel Uribe était en train de prononcer un discours lorsqu'il a été la cible de coups de feu. Un acte qualifié d'attentat par le gouvernement colombien. Malgré une première intervention chirurgicale, Miguel Uribe est toujours dans un état critique ce soir. Najat Benrabah.
Miguel Uribe avait organisé un meeting dans la capitale, la ville de Bogota. Il faisait donc un discours lorsque plusieurs coups de feu ont retenti. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre d'ailleurs ce moment. Le candidat à la présidence du pays a été touché à 2 reprises à la tête et 3 autres personnes ont été blessées dans l'attaque, dont le tireur, un mineur de 15 ans. Miguel Uribe a été évacué dans un état critique. Le gouvernement qualifie cet acte d'attentat et annonce des mesures pour garantir la sécurité de tous les autres candidats à l'élection présidentielle de 2026. Miguel Uribe appartient au parti de droite, Centre démocratique, dont le chef est l'influent ancien président Alvaro Uribe, qui a gouverné la Colombie entre 2002 et 2010. C'est aussi le petit-fils de Julio César Turbay, président entre 78 et 82, et aussi le fils de Diana Turbay, journaliste reconnue. Elle avait été enlevée par l'ex-baron de la drogue Pablo Escobar avant d'être tuée lors d'une opération militaire de sauvetage. Miguel Uribe est pour sa part sénateur depuis 2022. Il avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle l'an dernier pour succéder à Gustavo Petro, dont il est un vif détracteur.
En Colombie, où un puissant séisme de magnitude 6,5 a secoué ce matin plusieurs villes du pays, dont la capitale Bogota, pendant plusieurs secondes. Des milliers d'Espagnols ont manifesté dans les rues madrilènes aujourd'hui, appelant le Premier ministre socialiste à la démission. Pedro Sanchez est accusé par l'opposition de corruption. Plusieurs proches du chef du gouvernement, dont sa femme, étant mis en cause dans des enquêtes judiciaires portant sur des cas de corruption. Les dirigeants de la planète ont rendez-vous à Nice ce soir, à la veille de l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Emmanuel Macron doit les accueillir pour un dîner avant une conférence onusienne d'une semaine que le président espère transformer en sommet de mobilisation, dit-il. Et le menu s'annonce copieux. Exploitation minière des fonds marins, traité international sur la pollution plastique ou encore régulation de la surpêche sont à la table des discussions. La mobilisation sur les océans, c'est donc ce que souhaite, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, qui dit vouloir se poser en vigie sur le front de l'écologie, et ce après plusieurs renoncements de la part de son propre gouvernement, suscitant donc la colère du chef de l'État. Ce n'est pas le moment de créer des incertitudes, tacle-t-il dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui, notamment sur MaPrimeRénov', dispositif d'aide pour la rénovation énergétique des logements dont le gouvernement a annoncé la suspension temporaire. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Gouvernement qui a donc tenté de répondre aujourd'hui à l'agacement président et à l'inquiétude de la filière.
Oui, le président de la République a raison, a affirmé ce matin sur France Inter le ministre de l'économie Éric Lombard. Pourtant, Emmanuel Macron n'est pas tendre lorsqu'il fustige une erreur historique de céder aux facilités du moment et au détricotage. Fin de citation. C'est le retour d'Emmanuel Macron, l'écologiste, qui se soucie de son bilan de fin de mandat et qui est attendu à l'occasion du sommet des océans qui s'ouvre donc demain à Nice. Il appelle à la remobilisation écologique et prononcera un discours demain en ce sens. Mais les réalités de la gestion au quotidien et des équilibres politiques sont différents. Et c'est Éric Lombard, ministre dit de gauche du gouvernement et qui a lui-même décidé la suspension de MaPrimeRénov'. Alors il s'est livré à une petite contorsion ce matin. Le système ne sera finalement suspendu que jusqu'à la fin du mois de septembre maximum et non pas à la fin de l'année.
C'est une suspension pendant les mois d'été où, honnêtement, il se passe quand même moins de choses. Encore une fois, je veux aussi rassurer les artisans. Tout ce qui est engagé va se poursuivre. Et puis, dès qu'on peut, on rouvre le guichet. Il n'y a pas d'arrière-pensée budgétaire. Parce que c'est très important qu'on puisse faire de la rénovation énergétique.
Voilà, pas d'arrière-pensée budgétaire. Donc, et tous les crédits de MaPrimeRénov' seront utilisés en 2025, affirme Matignon. Cela dit, globalement, l'idée de l'écologie à la française reste encore assez lointaine et la politique en la matière est devenue difficilement lisible.
Nicolas Balu pour France Culture. La météo demain avec le retour d'un large soleil qui devrait persister jusqu'à mercredi sur la plupart des régions malgré quelques passages nuageux de la Bretagne aux Ardennes demain matin et des températures encore bien fraîches, 2 à 9 degrés attendus sur le nord-est et 10 à 15 degrés dans le sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benneteau.